Alors, quand on démarre ces activités, c'est vrai que ça fait une foule d'informations comme ça qu'il faut intégrer, qu'il faut digérer, etc. Et on se pose des questions par rapport aux priorités qu'on a besoin d'avoir. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais souvent on se dit, bon, qu'est-ce qu'il faut gérer le plus, sur quoi il faut mettre l'accent, etc. Très modestement, avec le parcours que l'on a, on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement des gens qui allaient aller plus vite que d'autres dès le départ. Dès le départ, un petit peu comme dans la nature, il y a des différences qui se font. Et les gens qui vont aller plus vite que les autres, au moins au départ, ont quelque chose que d'autres n'ont pas. Là, tout le monde est en train de la tête baissée, en train de prendre des notes et tout. C'est une prise de conscience. Ils ont conscience, une conscience évidente, naturelle, de ce qu'ils ont entre les mains. Ils ont la conscience qu'ils vivent une aventure unique. Ils ont la conscience que ce projet est hors norme. Ils ont la conscience de la qualité des produits, de l'environnement, de la richesse d'une lignée, d'un système de formation. Ils l'ont ça. La plupart d'entre nous, on va l'avoir, mais ça va prendre du temps. Parce qu'on a besoin de se rassurer. Comme disait Anne, souvent on veut maîtriser les choses et on a très peu d'expérience sur le lâcher-prise. Alors que finalement, ce qui va nous réaliser, c'est le lâcher-prise. Donc on est dans cette maîtrise des choses et puis, nous sommes que des humains, fragiles. Oui, non, pas fragiles, si. Mais aussi où on fait souvent des raccourcis, etc., etc. Et on veut que ça change dans notre vie, mais on aime bien chanter les trucs, prendre des raccourcis, et puis si on peut éviter de faire des efforts, eh ben c'est pas plus mal. Donc on veut ce changement, mais on reste campé sur des schémas du passé. Et on se dit que finalement, ce qu'on maîtrise, c'est pas si mal, et que, bah, ma foi, même si c'est une belle prison dorée, ça nous rassure. Tout ce que je vous dis, c'est inconscient, mais en attendant, c'est ce qui se passe. Mais le fait que des gens aient cette prise de conscience est aussi inconscient. Ils l'ont, c'est pour eux une évidence. Et ces gens vont aller plus vite. Vous allez voir quand même qu'il y a des accélérateurs et qu'il y a deux, trois outils en toute conscience qui peuvent nous permettre d'aller beaucoup plus vite. D'accord? Et puis il y a aussi cette conscience de, pour moi encore plus importante, qui est la conscience de l'environnement dans lequel on est. On a un métier extraordinaire, on n'est plus une start-up, mais on n'est encore pas une entreprise conventionnelle. Donc ça veut dire qu'on a parfois des gens, enfin je ne sais pas vous sur Paris, mais nous déjà dans la région de Tours. Je présente l'APO entre 8 et 10 fois par semaine et j'ai des fois des gens qui me regardent comme une poule qui aurait trouvé un peigne. Ça vous fait pas à Paris, non? À Paris, ils sont tous au plafond, ils applaudissent et ils disent c'est super, c'est super, c'est super. Non, c'est comme chez nous. Ben, il faut que vous ayez conscience de ça aussi. Que finalement, quels que soient les projets, qu'ils soient beaux ou moins beaux, qu'on soit les plus forts ou les moins forts, peu importe, je plaisante hein, quand je dis ça, on ne peut pas fédérer tout le monde autour d'une idée ou d'un produit. Et ceux qui avancent vite dans ce métier, ce sont des gens qui ont cette conscience-là. C'est-à-dire que très rapidement, quelle que soit l'opinion des gens, ils tracent leur route. Mais ils ont lâché prise le total. Ils ont compris que de toute façon, on est tellement au départ, dans le mental des gens, on est tellement en décalage avec ce que eux ont sentiment de croire, parce que vous savez très bien que la vérité, ce qu'on pense nous, n'est que notre vérité. Ce n'est pas la vérité universelle. Vous comprenez ça? Mais les gens pensent que ce qu'ils pensent eux, ben, c'est la vérité. Non, c'est leur vérité. Et finalement, ben, on est en décalage. Et vous allez voir que tout ce cheminement-là va faire une grosse différence. Et pour vous l'illustrer de manière plus précise, je vais vous raconter une histoire. Ça vous plaît? Cette histoire, ça va être le fil rouge, ça va être le fil conducteur de tout cet après-midi. Et je pense que ça va vous plaire parce que c'est une histoire qui vous touche tout particulièrement, vous, de la région parisienne. Je vais raconter l'histoire d'un homme qui est né en 1932 à Dijon. On va dire quel lien avec Paris, vous allez comprendre. Cette personne, son nom de naissance est Bonnickhausen. Ça ne vous dit rien. Hein. Et vous allez comprendre qu'il a changé de nom pour une raison bien particulière. L'aventure va naître le 26 janvier 1887. À l'époque, Waterman invente le stylo rechargeable. Michelin invente le pneu démontable. Pasteur, le vaccin contre la rage. Vous voyez un petit peu le contexte dans lequel on est? Et cet homme-là, lui, il a un rêve fort. Au même titre que Sylvain, Michel, Jean-Jacques, Jean-Claude, Guy avait ce rêve de créer ce métier. Bien lui, il avait aussi un rêve fort, parce que il fallait avoir un rêve, là. C'était plus qu'un objectif. Et ce rêve va devenir une révélation de notre pays. Va faire que notre pays va rayonner dans le monde entier. Va faire que notre pays va être considéré comme une des plus grandes puissances à l'époque. Après, les choses ont changé, mais à ce moment-là, la France est devenue le centre du monde. Ça paraît dingue. C'était le 26 janvier 1887. Il va créer à l'époque le plus grand bâtiment du monde en préparation de l'exposition universelle de 1889. Ce bâtiment va être fait de 2 millions et demi de rivets. Ce bâtiment fera plus de 300 mètres de haut, c'est la Tour Eiffel. Aujourd'hui, ce monument, qui est le monument le plus visité de la France, et même un des monuments les plus visités du monde, quand il est imaginé, personne n'y croit. Hein. Nous, on trouve ça aujourd'hui comme une évidence. Dites-vous bien qu'à l'époque, personne n'y croit, personne n'en veut, d'accord? Et ça fait peur à tout le monde. Mais vous verrez que ça, c'est le cheminement de toutes les choses nouvelles. Il va rencontrer tout un tas de contraintes. Déjà, trouver le personnel qui allait pouvoir construire ce bâtiment. Faut vous imaginer qu'à l'époque, les scientifiques, les plus grands scientifiques, de plus grande réputation, expliquaient que ces individus, passés 50 mètres d'altitude, mourraient d'asphyxie parce qu'il n'y aurait pas assez d'oxygène dans l'air. Ouais. C'était impossible de construire un bâtiment en acier, puisque à l'époque, on ne travaillait que de la pierre de taille, et que les plus gros bâtiments de l'époque, c'était les cathédrales et les pyramides d'Égypte. Donc, arriver en disant, moi, je vais faire le double des pyramides, puisque la plus grande des pyramides fait 149 mètres de hauteur, quelque part, c'était déjà complètement dingue. Je vous rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas de building encore aux États-Unis. Rappelez-vous, Pasteur invente le vaccin contre la rage. Ce qui peut paraître aujourd'hui évident, vous y remettez ça dans son contexte. C'était juste il y a 130 ans. Oui. Personne n'y croit, ni même le gouvernement. Des fois, dans notre métier, on nous dit qu'il faut mettre une liste de 100 noms pour en avoir quelques-uns qui nous disent oui. Le gouvernement français, à l'époque, est gouverné par le président Sadi Carnot, fait appel bien évidemment à tout un tas d'ingénieurs, les meilleurs ingénieurs de France, et on va lui présenter 107 projets. 107 projets, nous on dit une centaine de noms. Ouais. 107 projets pour finalement retenir qu'un. Mais vous imaginez que sur les 107 projets, vous avez 107 équipes qui défendent leur projet. Et Gustave Eiffel, avec ses trois ingénieurs chefs de projet, que ce soit Nouguet, Coquelin et Sauvestre, ben sont sur le pied de guerre. Ils veulent le faire. À l'époque, dans notre pays, tout se construit en pierre de taille. L'acier, en 1887, c'est considéré comme quelque chose d'industriel. On fait les usines avec, les toits d'usine, etc., les halls de gare, ce genre de choses. Donc, mettre un bâtiment en acier de 300 mètres au cœur de Paris, enfin au cœur de Paris, à l'époque où la Tour Eiffel aujourd'hui, c'est un marécage. Hein. Il n'y a aucune habitation, aucune. C'est un marécage, c'est une région inhabitée de Paris, ou en tous les cas de la grande banlieue parisienne. Mais construire un bâtiment en acier à l'époque, c'est un scandale, c'est une honte, c'est un affront. Ils vont aussi rencontrer des gens qui vont mettre en place des recours. La princesse de Poix, en particulier, qui est quelqu'un de très connu, qui est très très proche du président, enfin de l'épouse du président de l'époque, fait tout ce qu'il faut pour que cette tour Eiffel ne voit pas le jour. Oui, parce qu'un bâtiment de 300 mètres en acier, c'est quand même très très moche. Et puis ça risque de s'effondrer. Et comme elle habite un des bâtiments au bord de cet endroit, elle se dit que finalement, tous les matins en se levant et en voyant cette tour Eiffel, ça ne va pas le faire. 130 ans après, quand vous avez un appartement avec vue sur la tour Eiffel, vous multipliez le prix par un et demi. Mais bon. Mais vous allez voir. Eh bien, quand on démarre dans cette activité, est-ce qu'on est comme Gustave Eiffel? Est-ce qu'on va au bout de son projet? Ou est-ce que finalement, c'est notre entourage, notre famille, nos voisins, nos collègues de boulot qui nous expliquent la vie, qui nous expliquent ce qui est bon pour nous, ce qui marche ou ce qui ne marche pas, alors qu'eux-mêmes n'ont pas forcément prouvé grand-chose? Parce que les gens qui expliquaient à Gustave Eiffel que sa tour Eiffel ne tiendrait pas debout, n'avaient rien construit, n'avaient rien montré. Les gens qui critiquaient, qui jalousaient, n'avaient rien fait, quoi. Vous voyez? Eh bien, parfois, quand on démarre dans ce projet, parce qu'on n'a pas une réelle conscience de ce qu'on a entre les mains, eh bien, on peut se laisser comme ça emporter par des gens autour de nous qui nous expliqueraient que finalement, ce qu'on fait, c'est pas bien. Vous voyez? Bah, cette prise de conscience-là va faire toute la différence. Et moi, je retiens déjà trois leçons de ce départ, de cette construction. Trois leçons. Parce que cette tour Eiffel, c'est pas fait du jour au lendemain. Je vous ai parlé du 26 janvier 1887. Et la Tour Eiffel sera inaugurée le 30 mars 1889, juste pour l'inauguration. Mais c'est 2 ans de travail. C'est 5300 dessins qui vont correspondre aux 5300 éléments de construction de la Tour Eiffel. La Tour Eiffel a été construite à Boulogne-Billancourt, dans des ateliers, les ateliers de Gustave Eiffel, par tronçons, 5300 tronçons qui ont été assemblés ensuite sur place, sur le Champ de Mars. 5300 dessins qui ont demandé 2 ans de travail, qui ont demandé le recensement de 250 salariés qui étaient tous des compagnons de France, qui étaient tous les meilleurs dans leur domaine. Et pourquoi on ne ferait pas pareil, nous? Pourquoi on n'irait pas chercher les meilleurs tout de suite? Tant qu'à faire. Parce qu'on va parler de la construction de notre Tour Eiffel, de notre projet, de notre histoire. Oui. 2 ans de préparation. Moi, je retiens 3 leçons. D'abord, c'est le cheminement de tout ce qui est nouveau. Au départ, c'est pas possible. Ça me fait penser à un sketch de Gad Elmaleh. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible. Ouais. Au départ, c'est pas possible. Personne n'y croit. Eh bien, quand vous présenterez votre métier, tous les soirs en salon, des gens vous diront c'est pas possible. Acceptez-le, comprenez-le. Pas de problème. Vous savez, moi j'aime bien cette image d'un film, je crois que c'était Itinéraire d'un enfant gâté, avec Richard Anconina et puis Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo est patron d'un groupe, d'une multinationale, et il en a ras-le-bol. Il en a marre d'en avoir marre, d'avoir des responsabilités. Et il décide de quitter tout ça et il va aller graviter autour du monde du spectacle, d'un vieux cercle de quartier, etc. Et il laisse la direction de son entreprise à ses 2 enfants. Mais ces 2 enfants n'ont pas forcément la même vision, la même notion, je dirais, de la vie, les mêmes valeurs, etc. Et l'entreprise périclite. Et dans le cadre de ces rencontres, il fait la connaissance d'un jeune homme un peu perdu qui se cherche, qui s'appelle Richard Anconina. Et il va le préparer au rendez-vous avec ses 2 enfants. Et il va lui dire, parce que je ne vous raconterai pas le contexte, c'est pas le lieu ni l'endroit, mais il sait qu'il va être surpris par la rencontre, parce que ses enfants vont lui dire. Donc il lui dit, quoi qu'on te dise, ne sois jamais surpris. Vous savez, c'est l'image du cygne. Le cygne, il est sur un là, calme plat, pourtant dessous, les pattes moulines. Vous voyez ? Mais quand on le regarde, c'est beau, c'est fluide, ça bouge presque pas. Pourtant, en dessous, ça mouline. Et il lui explique ça. Eh bien, c'est la même chose. Quand vous présentez votre produit, quand vous présentez votre métier, tout va bien. Ne t'inquiète pas. Il n'y a aucun problème. Je vous garantis que quand vous réagissez comme ça, vous annihilez déjà tout un tas d'objections, tout un tas de questions. La personne vous dit, qu'est-ce qu'on vous dit sur Paris quand vous présentez votre métier? C'est pyramidal? Bon, allez pas jusque-là non plus. Hein. Mais si on vous dit ça et que vous dites « Comment ça c'est pyramidal? Vous me prenez pour quelqu'un de malhonnête? Vous êtes en train de dire que ce que je fais c'est pas bien ?» Si vous faites ça, vous êtes dans une relation frontale et ça va pas marcher du tout. Maintenant, si la personne vous dit ça et que vous c'est marrant, vous pensiez ça parce que beaucoup des gens qui nous rejoignent, moi-même, à l'époque, quand je découvre ces projets, j'avais un peu ça derrière la tête. Vous savez quoi? C'est pour ça qu'on va avoir besoin de se revoir. On va se servir ensuite de l'objection pour renforcer la prise du rendez-vous. Mais entre guillemets, tout va bien. Je ne suis pas surpris, je ne suis pas déstabilisé dans le fait qu'elle me dise ça. Si je rentre, entre guillemets, dedans, ça se dit ça chez vous aussi. Si je rentre dedans, ben quelque part, je suis déstabilisé. Donc j'ai quelque chose à prouver. Donc j'ai peut-être aussi quelque chose à me reprocher si j'ai quelque chose à prouver. Vous comprenez l'idée? Donc finalement, j'induis exactement le cheminement que la personne qui est en face de moi voudrait faire. Parce que finalement, elle me taquine un peu. Mais quand elle me dit c'est pyramidal, en gros, elle me dit quoi? Ça me plaît, mais rassurez-moi dans le fait que c'est bien légal. Vous comprenez l'idée? Donc c'est important d'avoir cette réaction normale. Mais ça, c'est possible que si j'ai conscience de ce que j'ai entre les mains par rapport à ce que les gens vivent. Aujourd'hui, les gens, ils vivent dans un système pyramidal. Je suis désolé pour les chefs d'entreprise, mais on est des structures d'entreprise qui fonctionnent à la verticale. Il n'y a pas plus pyramidal que le système dans lequel on vit tous. Vous comprenez? Donc elles me le disent, c'est normal. Mais est-ce que nous-mêmes, on a conscience de l'environnement dans lequel on évolue? Le gouvernement français est pyramidal. Je jette pas la pierre, c'est comme ça. Je dis pas que c'est bien, que c'est pas bien, mais c'est quand même pyramidal. La structure d'une entreprise est pyramidale. La structure d'une association est pyramidale. Tout est conçu comme ça. Tout. Il y a les petites mains qui savent faire, et puis il y a le chef qui commande les petites mains, puis il y a le chef des chefs qui commandent les chefs, etc. etc. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. C'est le modèle dans lequel on est. Donc quand les gens vous disent ça, eh ben c'est normal, puisque c'est l'univers, c'est l'environnement dans lequel on évolue, dans lequel on a grandi et sur lequel on a été formé. Mais parce que j'en ai conscience, je comprends aussi la question ou l'objection. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc au début, ce n'est pas possible. Après, il va se passer un autre phénomène. Ça commence à marcher. Ouais, parce qu'il y en a quand même qui avancent. Hein. Ça commence à marcher. Et là, vous savez quoi ? Ce qui va se passer ? Ça fait peur. Ça fait peur. Et quand ça fait peur, ça dérange. Et quand ça dérange, vous savez ce qu'on fait généralement ? Bah, on tape sur les doigts des gens, ou sur la tête, que vous voulez. Ça fait peur. Donc là, vous avez des objections plus virulentes, etc. Vous avez des gens qui peuvent vous moquer un petit peu. Toi, quand même ! Non ! Tu t'es pas fait pigeonner ! Hein ? Hein, Tintin ? Non ? Vous savez, quand on a fait notre premier voyage, je l'avais entendu et j'ai trouvé ça intéressant de le mettre en application. Quand on a fait notre premier voyage, on a envoyé des cartes de visite à certaines personnes, des cartes postales, pardon, à certaines personnes en disant « Les pigeons volent toujours. » Avec un smile, vous savez. Je vous promets. Ces gens-là nous ont jamais autant motivés parce que finalement, avec le recul, quand on pense à tous ces gens-là, ils ont une vie qui ne nous font pas rêver. Mais en même temps, c'était un réflexe de protection. Nos parents, on aime ses enfants, donc ils font un métier dont on n'a jamais entendu parler. Nos parents ou nos grands-parents, pour les plus jeunes ici, ben on a vécu dans un système pyramidal où on traversait la rue pour aller à l'usine et rentrait le soir, tous les jours, pendant 42 ans. Et là, d'un seul coup, on nous parle de liberté. On nous parle de fonctionnement à l'horizontale. C'est pas possible ! Et si c'est mes enfants, si c'est ma sœur ou mon frère, ça me fait peur pour eux. Vous comprenez ? Donc au début, c'est pas possible. Ensuite, ça fait peur. Et ensuite, comme la tour Eiffel, ça devient une évidence. Du style, ouais, mais Anne Yvon, vous étiez fait pour ça. Non, mais on était sûr que ça marcherait pour vous. Non, puis alors, le marché de l'équilibre alimentaire et de la nutrition sportive, tout le monde en parle. Je veux dire, matin, midi et soir, on nous parle de manger mieux, bouger plus, 5 fruits et légumes par jour. On sait très bien qu'aujourd'hui, il y a un problème de nutrition. 2 milliards d'individus souffrent de malnutrition. 60 millions d'enfants meurent par an de malnutrition. Les chiffres sont réels, hein. Donc forcément, vous êtes sur le bon marché. Et puis alors, la génération Z, donc toutes les moins de 25 ans, aujourd'hui, mais ils ne veulent plus entendre parler de ces systèmes à la verticale. Ils ont une appétence pour la liberté. Donc vous êtes forcément dans la nouvelle dynamique. Et puis l'avenir, c'est l'intelligence artificielle. Ah oui, c'est le numérique. Et vous êtes en plein dedans. Donc c'est normal que ça marche pour vous. Ouais. Par contre, si ça ne marche pas, ils vous diront la même chose. Je te l'avais bien dit. Donc le mieux, c'est qu'on réussisse quand même. Dans tous les cas, je plaisante, mais que vous réussissiez ou pas, ben vous serez jalousé, vous serez critiqué pour des raisons différentes. Si vous n'avez pas réussi, vous êtes un raté. De toute façon, j'avais raison. Et si vous réussissez, vous êtes un salopard. Vous réussissez. Quelque part. Si, c'est comme ça que ça se passe. Et il faut l'intégrer, c'est normal. C'est normal parce qu'on a une société où la critique, la jalousie est exacerbée. Regardez, on est dans une société de jugement, quelque part. C'est vrai, je vous promets. Un enfant tout petit à l'école va regarder si le copain il a des chaussures qui portent une marque ou pas. Et s'il n'en a pas, on va se moquer de lui. On va regarder sa couleur de peau, on va regarder, j'en sais rien moi, tellement de choses. On est une espèce de jugement. Dans ce métier, on fonctionne à l'horizontale où il n'y a aucun lien de subordination, le jugement n'a plus raison d'être. C'est un petit peu comme dans une association ou un club de sport. On est tous en short, tous en jogging, qu'on soit patron d'une boîte ou qu'on soit sans boulot, on se tutoie, on échange, on est sur le vélo, on parle avec le copain, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Ben dans ce métier, c'est la même chose. Donc au départ, c'est pas possible. Ensuite, ça fait peur. Quand ça commence à faire peur, ça veut dire que ça commence à être bon. Hein. Et après, ça devient une évidence. Quand ça devient une évidence, ça veut dire que les parts de marché sont déjà sérieusement prises. Et moi, ce qui me plaît, c'est qu'on est à mi-parcours. Moi, j'aime bien que ça fasse peur. Parce que ça veut dire que là, le terrain de jeu, il est à conquérir. Il y a tout à faire. Quand demain, on dira Enel International fait 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires, est implanté dans 80 pays, qu'on commencera à être, 10, 12 000 tuteurs, et qu'on sera en connexion directe dans les aéroports, en disant t'arrives d'où? Ben là, écoute, je rentre de Dubaï, écoute, j'ai fait un séminaire dans le stade de Dubaï, et attends, ils étaient 30 000. Je te jure, 30 000. Déchaînés, hein, déchaînés. J'ai eu un petit problème avec l'interprète à un moment donné, tu vois, sur scène, mais sinon, ça s'est super bien passé. Voilà. Je me suis perdu dans l'ascenseur, enfin, dans les coursives de l'hôtel, parce que ben, j'étais au 92e étage, je me suis paumé. La deuxième leçon qu'on peut tenir de cette histoire de Tour Eiffel, c'est quand même 2 ans de travail, 2 ans de préparation, d'accord, qui vont changer la face du monde et la reconnaissance de la France dans le monde. À l'époque, la France est réputée pour la qualité de ses ingénieurs. Tous les génies, entre guillemets, enfin une grosse partie des génies de l'époque, étaient français. Quand je dis ça, attention, hein, c'est pas du cocorico, machin, etc. Mais c'est une réalité. Les grandes inventions ont été faites à partir de là et beaucoup, beaucoup de ces inventions étaient issues d'ingénieurs français, beaucoup. Et vous verrez d'ailleurs que quand la Tour Eiffel va être inaugurée, les plus grands ingénieurs de la planète viendront féliciter les ingénieurs français. Ils seront tous là, Edison et tous les autres, pour reconnaître le talent de ces gens-là. D'accord ? Donc, la préparation est importante. Je vous l'ai dit, 5300 dessins, 2 ans de travail dans les ateliers. La mise en place d'échafaudage, ça n'existait pas à l'époque. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas d'échafaudage. Vous trouvez ça normal aujourd'hui, mais à l'époque, ça n'existait pas. Ouais. Inventer, parce que 300 mètres d'altitude sans échafaudage, on se dit comment ils ont monté les éléments tout en haut. Donc, ils ont inventé des systèmes. Ils ont imaginé des outils, des systèmes pour que les gens puissent travailler. Ouais. Mais tout ça, ils l'ont fait avant. Ils ne l'ont pas inventé au fur et à mesure. Ouais. Est-ce que vous imaginez tout ce que ça a pu engendrer ? Ben moi, ça me fait penser à notre métier. Ça me fait penser à notre métier et je vais vous dire très sincèrement, réussir dans ce métier, c'est bien le préparer. Des fois, des gens me disent, je pense qu'on vous le dit aussi certainement, qu'est-ce qu'une bonne PO ? Qu'est-ce qu'une bonne RBE ? Ben une action bien préparée. Point barre. Ce n'est que la conséquence d'une bonne préparation. Eh bien, dans ce métier, si on avait la même sagesse que Gustave Eiffel ou d'autres, et qu'on prépare bien les choses, on aurait un métier facile. La première des choses qu'on a besoin de préparer, sa liste de noms. Sa liste de noms, et souvent, cette liste de noms, elle est un peu galvaudée. Tu mets une trentaine de noms, puis on verra bien. Non, la liste de noms, c'est les fondations de votre métier. Quand la Tour Eiffel a été créée, il a fallu mettre en place des fondations. Ces fondations, elles font 12 mètres de profondeur. Il a fallu inventer des bacs spécifiques pour que les salariés, pour que le personnel puisse travailler dedans, parce que, vous vous rappelez, je vous ai dit que c'était un marécage. Et que 12 mètres de profondeur, c'était en dessous du niveau de la Seine. Donc il a fallu construire des fondations. Ils ont mis en place, ils ont innové, ils ont imaginé des bacs en acier avec de l'air comprimé qui chassait l'eau pour que les gens à l'intérieur de ces bacs-là, énormes, vous imaginez, le quart de la pièce ici, puissent vivre et surtout travailler. Ouais. Ils ont pris le temps de le faire parce qu'ensuite, ils allaient construire un bâtiment qui allait devenir le plus grand bâtiment du monde. Eh bien, nous, on veut construire un business, quoi. On veut construire quelque chose. En fonction de nos ambitions, on veut construire quelque chose de plus ou moins grand, mais quelque chose quand même de grand. On a besoin de comprendre que ce travail de fondation, c'est notre liste de noms. Pas de liste de noms, pas de business. Je vous le dis très sincèrement. Et avoir une liste de noms, c'est quoi ? C'est 200 à 300 noms. Vous êtes venus en voiture ? Tous ? Ouais, parce qu'à pied. Hein. Donc bien sûr, vous avez mis la personne qui vous a vendu la voiture, la personne qui vous l'entretient et la personne qui vous l'assure. Bah attends, à Paris, on s'est rendu. Attends, bah oui, c'est évident. Hein. Vous avez tous un toit, rassurez-moi. Ouais. Vous êtes locataire ou propriétaire d'une maison ou d'un appartement. Donc vous avez mis, bien sûr, la personne qui vous a vendu votre appart ou votre maison ou qui vous l'a loué, et puis la personne qui vous l'assure. Peut-être même la personne qui vient une fois par an nettoyer la chaudière. Peut-être aussi la personne qui vient une fois par an tailler les haies du terrain ou tondre la poux, j'en sais rien. Oui, vous avez mis, bien sûr. Et puis, vous n'avez pas l'air malheureux, vous avez tous un compte en banque. Donc, vous avez mis votre conseiller bancaire et vos directeurs d'agence bancaire. Hein, vous ne l'avez pas fait ? Ah non, vous ne l'avez pas fait ? Non, parce que dans ce métier, vous allez rencontrer des garagistes, des assureurs, des banquiers. Oui, vous allez rencontrer tous ces gens-là. Il y en a peut-être même dans cette salle aujourd'hui. Moi, je pense à quelqu'un qui a démarré son banquier. Et quelqu'un derrière ce banquier a démarré un garçon qui s'appelle Joachim Eno. Ça fait c'est pas loin de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pas mal. Heureusement que quelqu'un a démarré son banquier. Ouais. Si vous n'êtes pas accompagné pour faire votre liste de noms, vous n'allez pas le mettre. Quand on n'est pas accompagné, qu'est-ce qu'on fait? On met les copains. Vous connaissez beaucoup de gens qui ont réussi en travaillant avec leurs copains, vous? Dans le milieu conventionnel? Non? Ben pourquoi ça serait pareil dans ce métier? C'est pareil. Donc on met bien sûr les amis, parce que si on peut partager avec eux une aventure comme celle-ci, on le fera. On mettra sa famille, bien sûr. Mais ça, c'est qu'une toute, toute petite partie de sa liste de noms. Imaginons, je sais pas, moi, ta maman s'appelle Corinne. Tu l'as mise sur ta liste de noms? Oui. Est-ce que tu penses, est-ce que tu connais quelqu'un d'autre qui s'appelle Corinne? T'as quelqu'un d'autre par rapport à ça, qui s'appelle Corinne? Ta maman aujourd'hui, elle est avec ton père, elle a refait sa vie? Avec ton père, d'accord. Ton papa, il s'appelle comment? Gilbert. Gilbert, ça te fait penser à un autre prénom ou pas? Oui, non, vite, vite, réponds vite. Qui? Uniquement à ton père, tu connais pas d'autres Gilbert. Tes parents, ils font quoi dans la vie? Retraités. Est-ce que tu connais d'autres retraités? Tu les as mis sur ta liste de noms? Est-ce que tu as mis tous les amis de tes parents? Les voisins de tes parents? Et les voisins de tes parents, tu les as mis? Ouais. On commence déjà. Donc, on a parlé de ses parents. Mais déjà, s'il a fait ce qu'il a dit, il a déjà mis 30 noms. En partant juste de ses parents. Après, je continue comme ça. Tu m'as mis Jean-Paul, ton meilleur ami. Ok, ton meilleur ami, il est marié. Sa femme, elle s'appelle comment? Ok, tu connais ses parents? À la femme de ton meilleur ami. Tu connais ses meilleurs amis? À la femme de ton meilleur ami. Et je suis parti. Mais c'est ça, travailler une liste de noms. Et si vous le faites accompagner, ça va marcher. Parce que des fois, des gens qui vous disent « Ah, sans nom !» Oh là là! Mais attendez, demain vous mariez vos enfants, vous êtes 15 au mariage? Sans nom, c'est rien. C'est rien quand c'est fait sérieusement et qu'on est accompagné pour le faire. Et ça, on prend du temps. S'il faut faire 2-3 rendez-vous pour travailler la liste de noms, on prend 2 ou 3 rendez-vous. Parce que derrière, ça va dégainer. Hein. Parce que quelqu'un qui a 200 noms, derrière, dans la préparation, comme Gustave Eiffel, qu'est-ce qu'on va faire? On va inviter ces gens-là. Ouais? Mais si vous avez 200 noms sur votre liste de noms, les invitations vont être faciles. Pourquoi? Parce que même si les 20 premiers vous disent « Non, j'en veux pas de la bûche », eh bien, vous vous en moquez complètement. Parce qu'il en reste 180. Maintenant, vous en avez mis 30 sur la liste de noms pour faire plaisir à la personne qui vient faire l'APO. Les 20 premiers vous disent « Non », et il en reste plus que 9. Et là, clac, 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 clac. Et ça veut dire que quand c'est clac, 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 on est en demande. On n'est plus dans l'offre. Donc, on n'invite plus les gens pour eux, on les invite pour nous. Et ça, c'est très, très moche. Pas bien. Pas bien, non, ça se fait pas, ça. Alors, on se donne toutes ses chances. Comme Gustave Eiffel, il s'est donné toutes ses chances. Il avait compris que pour maintenir un bâtiment de 300 mètres de haut, il fallait au moins des fondations de 12 mètres de profondeur, qui avaient 2 ans de préparation avant, s'il voulait être dans les clous, pour que sa pyramide, sa tour Eiffel, je vais y arriver. Je pense à Khéops. J'ai vu un truc il n'y a pas très longtemps là-dessus. S'il voulait que sa tour Eiffel soit terminée, pour l'exposition universelle de 89. Ouais. Et ben nous, c'est pareil. On démarre ce projet, on se dit, bon, ben moi, mon star diamant dans tant de délais, mon tuteur dans tel délai, j'ai besoin de bien le préparer. Une bonne préparation, c'est ce qu'il y a de plus important. On parle de ça, mais derrière, est-ce que je maîtrise bien la méthode? Alors l'invitation, tout le monde s'est invité ici? Ouais, bien sûr, tous. Comment est-ce qu'on fait pour bien inviter? Vous savez comment on fait? On invite, on invite, on invite. On invite, 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 on invite. C'est ça, inviter. Alors, il y a autant d'invitations qu'un individu. Mais pour moi, l'invitation, elle ne se fait que dans le non-verbal. Les mots, alors il y a des mots à être employés. Réunion, machin, truc, éventuellement, si tu as le temps, tout ça, vous oubliez. Hein. Mais il y a quand même 2-3 trucs à savoir. Le plus important dans une invitation, c'est l'intention. L'énergie. Vous savez que dans la communication, les mots ne comptent que pour 7% et le non-verbal pour 53%. Donc quand vous invitez quelqu'un, vous l'invitez au téléphone. Le non-verbal va prendre une importance considérable. À la limite, c'est quoi une bonne invitation? Vous savez, la personne elle raccroche, sa femme lui dit « Dis donc, il voulait quoi, Yvon ? Écoute, j'en sais rien, tout de suite la date, hein, c'est important. » L'autre, il ne sait pas ce qui va se passer, mais pour lui, il a compris que c'était important. C'est ça une bonne invitation? L'invitation, c'est le contraire de tout expliquer, de tout dire. Je m'explique. Je suis un gourmand, ça se voit, non? J'aime bien manger. J'aime la vie, j'aime mon métier. Mon métier, c'est une passion, mais j'aime bien manger. Donc, comme je vous ai dit que j'aimais bien manger, j'espère que vous serez nombreux à m'inviter à manger. Ce soir, par exemple, si vous le souhaitez, je ferai un petit crochet. Non, je plaisante. Mais vous m'invitez à dîner. Et imaginez, vous m'invitez à dîner, écoute, on serait ravis de vous accueillir avec Anne pour dîner ce soir. Et imaginez la réponse. Ah, je ne viendrai que si tu me dis ce que tu as fait à manger. Là, à mon avis, le mythe va tomber, hein. D'accord. Non, il est quand même gonflé, Yvon. On l'invite à manger à la maison et il dit je viens que si tu me dis ce qu'il y a. Eh bien, quand vous expliquez à quelqu'un au téléphone ce que vous allez lui montrer quand s'il vient à l'APO ou pour le produit, vous êtes en train de faire la même chose. Vous n'êtes ni à vendre ni à acheter. Vous comprenez? Si quelqu'un vous dit moi je viens que si tu me dis ce que c'est, ou qu'il vous pose des questions, et que vous répondez, c'est comme si vous étiez en train de donner le menu à la personne que vous êtes en train d'inviter. Vous comprenez? Ça aura exactement l'effet inverse que ce que vous souhaitez. Et la personne, au fond de sa tête, inconsciemment, le prospect se dira, eh bien lui, il est très très moche. Il est très très moche parce qu'il se justifie, il argumente. Donc s'il justifie qu'il argumente, c'est qu'il a quelque chose à se reprocher. Donc la personne, elle vient, elle est où l'entourloupe? Il est où, comment ça se dit? Il est où le loup? Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça aura exactement l'effet inverse. Et pourtant, je te jure, je l'ai bien invité, hein? Je lui ai tout dit, a tout compris. Ben non, c'est tout le contraire qui va se passer. Une invitation, je vous en fais une, mais elle m'appartient. Mettez-y les mots, la finesse que vous souhaitez, en fonction de votre sensibilité, etc. Mais moi, j'invite quelqu'un, c'est toujours la même invitation, toujours, depuis des années, depuis 8 ans bientôt. Allô Chantal, ouais, salut, c'est Yvon, je te dérange pas? Ouais, Gérard est à côté de toi, tu peux mettre l'ampli? Oui? Vous avez 2 minutes à m'accorder? Donc déjà, je mets l'entonnoir en place. Je valide que je ne dérange pas. Je valide ils soient bien là tous les deux. Parce qu'avec Anne, on invite en couple, sinon rien. Vous allez gagner un temps considérable. Vous allez gagner un temps considérable. Et si la personne vous dit, mon conjoint ne peut vraiment pas être là, dans ces cas-là, vous dégainez la méthode Lagardère. Si tu ne peux pas venir à Lagardère, Lagardère viendra à toi. Ce qui fait que vous n'inviterez les gens qu'une seule fois dans votre vie. C'est la meilleure façon de rester offreur. Il n'y a rien de pire que d'appeler quelqu'un 15 fois. Il y a des gens, on les a appelés 15 fois. Non! Si la personne, la première fois, vous avez tiré un peu sur l'élastique, elle vous dit non, je ne peux pas venir, eh bien, dans ces cas-là, vous lui proposez un rendez-vous en direct. Mais tout de suite, ouais, tout de suite. Même au bout d'une semaine, oui, même au bout d'une semaine. Vous savez comment quelqu'un va compenser le manque d'expérience au départ? Par l'enthousiasme. Vous voulez que je vous rappelle un vieux souvenir pour ceux qui êtes en couple? Les premiers jours où vous avez rencontré votre moitié, vous vous rappelez la première fois où vous avez rencontré votre compagne ou votre épouse? Mais on est prêt à traverser la France entière! Et puis quelques années après, votre épouse vous dit non, tu pourras aller chercher le pain? Tu peux y aller, c'est bon. Ouais. J'ai eu une semaine de dingue. Hein, Alors qu'avant, c'est le pain, c'est le bouquet de fleurs, c'est la totale. Les petits croissants le dimanche matin, le plateau au lit, au réveil, tout. Hein. Eh bien, quand quelqu'un démarre dans ce projet, il amène le plateau au lit. Il est prêt à faire des choses extraordinaires. Il a une communication enthousiasmée. Il a une communication passionnée. Ça va compenser le manque d'expérience. Et moi, souvent, je dis aux gens, écoute, moi, je suis devenu trop intelligent aujourd'hui. C'est pas de la fausse modestie, hein. C'est une blague. Mais je dis, c'est mieux que tu t'y mettes toi carrément tout de suite, quoi. Moi, je préfère qu'un nouveau fasse le boulot tout de suite que l'aligné le fasse 15 jours après. L'impact sera bien plus positif. Et puis finalement, c'est celui qui fait qu'apprend. Vous savez que l'apprentissage, l'école de la vie, c'est le terrain. Hein. Donc cette notion d'invitation, elle est simple. Alors, allô Chantal, ouais, salut, c'est Yvon, je te dérange pas? Gérard est à côté de toi? T'as 2 minutes à m'accorder? Vous avez vu, c'est exactement le même truc. Hein. Le replay total, oui. Écoute, j'avais une première question à te poser. Est-ce que vous n'êtes pas pris mardi prochain, 20h25 par exemple, après dîner? Est-ce que vous n'êtes pas pris mardi prochain, 20h25 après dîner? J'ai pas dit 20h30. Parce que 20h25, on va le retenir. Hein. Pourquoi 20h25? On n'a pas besoin de lui expliquer, mais il a bien noté 20h25. Ça, je vous promets que c'est quelque chose qui marche. Donc, est-ce que vous n'êtes pas pris tous les deux mardi prochain, 20h25 après dîner? Donc déjà, ils ont compris qu'ils ne venaient pas pour manger. J'ai dit après dîner. Non, mais j'explique pour les nouveaux. Ils ont retenu l'heure parce que l'heure, c'est quelque chose qui n'est pas habituel. 20h25, ce n'est pas un truc habituel. Après dîner. Donc déjà, ils ne nous invitent pas à manger. Ils ont compris. Et là, j'attends. Donc, et là, c'est... Je me tais. Est-ce que vous n'êtes pas pris mardi prochain, 20h25, après dîner? Silence. Et là, le premier qui parlait est mort. Et moi, je ne vais pas parler. Donc, la personne va me dire, bah oui, mais de quoi il en retourne? Eh bien, justement, voilà la raison de mon appel. Et là, je les ai mis en situation de demande. C'est eux qui demandent. Et pourquoi? Ben voilà la raison de mon appel. J'ai un de mes amis qui s'appelle Jean-Claude. Il implante aujourd'hui des projets dans la région, il y a des places à prendre. Et moi, j'ai pensé à toi. Ça vous fait plaisir? Terminé, l'invitation est finie. Je vois des gens qui vont chercher des trucs hyper compliqués. Hein. C'est tout, l'invitation est finie. Et là, qu'est-ce que je fais? Je me tais. On est d'accord entre nous que ça ne lui suffit pas, l'information ne lui suffit pas. Qu'est-ce qu'il va me dire? Tu peux pas m'en dire un peu plus? Il est en demande! Super! Le premier qui a parlé est mort. Tu peux pas m'en dire un peu plus? Si! Comme je te le disais, mon ami Jean-Claude fait partie d'un collectif de chefs d'entreprise. Et quand il s'engage avec quelqu'un, dans les 6 à 12 mois qui viennent, il l'aide à créer sa propre activité. Donc ma question est simple, c'est est-ce que vous venez tous les deux? Oui ou non? Sinon, j'en fais profiter quelqu'un d'autre. Je recommence? Mais tu peux pas m'en dire un peu plus? Et là, il est en demande. Ben écoute, mon ami Jean-Claude fait partie d'un collectif de chefs d'entreprise. Et quand il s'engage avec quelqu'un, dans les 6 à 12 mois qui viennent, il aide à créer sa propre affaire. Ça vous fait plaisir? Sinon, j'en fais profiter quelqu'un d'autre. Si la personne me dit, ouais, mais enfin quand même, attends, lâche un peu un truc, quoi. Ou alors si c'est quelqu'un que vous voyez, attendez, monsieur Agenon, moi je suis un chef d'entreprise et j'aime bien savoir pourquoi je me déplace. Hein? Dans les deux cas, vous savez ce qui se passe quand il est comme ça? Il est archi en demande. Il est en demande. Donc qu'est-ce qu'on dit? Pardon, monsieur Durand, imaginez que c'est quelqu'un que vous voyez, votre patron. Pardon, monsieur Durand, je pensais qu'on avait une autre relation entre nous. Je pensais qu'on se faisait confiance. Dans 9,9 cas sur 10, la personne va dire « Ah non, attendez, monsieur Agenon, bien évidemment, je vous fais confiance. » Donc, monsieur Durand, ma question est simple. C'est est-ce que je compte sur deux, oui ou non? Sinon, j'en ferai profiter quelqu'un d'autre. Normalement, avec deux cartouches, on n'y revient pas. C'est testé, approuvé. Hein. Allez, à 95%, ça va marcher. Moi, je préfère travailler sur 95% de certitude que sur 95% de « on verra bien peut-être ». Vous voyez l'idée? Les 0,5% pour qui ça n'a pas marché, de toute manière, ça n'aurait pas marché. Ils vous ont donc fait gagner du temps. Et là, on les remercie. C'est ça une invitation. Vous voyez? C'est rien de plus que ça. Mais vous y mettez votre cœur, votre engagement, etc. Et mettez-y du fun aussi. Moi, quand je dis à quelqu'un, ça m'arrive, hein, je sais pas, j'invite un copain, un collègue, un gars avec qui je joue au rugby, qui me dit, « Oh, mais attends, Yvon, moi, si tu me dis pas ce que c'est... Bon, attends, ton prénom ? Attends, Stéphane, tu fais la gueule ou quoi ? Putain, moi, je croyais qu'on avait une relation. Tu me fais confiance ou pas ? Je suis dans l'autodérision, si j'ai le droit. Hein. Vous avez le droit de mettre de l'humour dans le truc. Hein. Vous comprenez ? Faut pas être coincé du luc, quoi. Faut être détendu, tout va bien. Vous proposez une solution à des gens. Vous êtes fier de votre métier? Vous êtes fier de cette aventure? Eh bien, il faut qu'ils le sentent, les gens. Et il est où le problème? Il vous dit non. Il est où le problème? On a 300 noms sur la liste. Il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Mais ça, on ne peut le faire que si c'est bien préparé. L'improvisation, la meilleure, c'est quand elle est bien préparée. Des fois, des gens disent, mais vous prenez pas de notes. Ah ouais, mais avant, il y a du boulot. Hein. Là, on fait les malins, mais ils sont là, les notes, quand même. Hein. Mais c'est préparé avant. Il y a un vrai travail de recherche, etc. Mais là, c'est pareil. Vos invitations, le travail de liste de noms, fait que les gens vont dire, attends, je comprends pas, ton business, il marche tout seul. Ah ouais, mais la liste de noms et les invitations étaient bien préparées. Vous comprenez? Et la troisième leçon de tout ça, c'est la force du rêve. Parce que si ce monsieur, Gustave Eiffel, n'avait pas eu ce rêve fou, bah, cette tour Eiffel n'aurait jamais vu le jour. Quand on a un rêve fort, quand le rêve est fort, les faits ne comptent pas. Anne vous a dit tout à l'heure, dans sa présentation, ce qui est important, c'est votre pourquoi. J'espère que vous avez un ancrage ultra puissant. Fort pour vous, pour vous, les gens que vous aimez, pour vos enfants, pour votre conjoint, etc. Quelle est l'image que demain vous voulez laisser? Comment parlent de vous vos enfants quand ils vous regardent? Ça, c'est important. Qu'est-ce que pense de vous votre conjoint? Comme dirait Guy Goujon, vous êtes un mou de la chic ou un vrai guerrier, quoi? La force du rêve, c'est important. C'est ce qui nous mène, quoi. Alors, je vais employer une image de garçon, vous ne m'en voudrez pas. Hein. Mais imaginez, vous avez une belle Ferrari dans le garage. C'est beau, une Ferrari? Non, les filles, ça ne vous fait pas rêver, ça. On imagine, vous avez une belle voiture, une Ferrari. Allez, soyons fous. Ou autre chose. Mais bref, moi, j'ai pris Ferrari. D'accord? Il n'y a pas de moteur dans la voiture. Ben, cette voiture, elle ne vaut rien. La voiture ne vaut rien et surtout, elle ne vous emmènera nulle part. Eh bien, votre rêve, c'est votre moteur. La Ferrari, c'est vous tous ici. On est tous des Ferrari. On est tous on mérite bien mieux. On est de bien plus belles personnes que ce qu'on imagine. Alors, il ne faut pas tomber non plus dans l'excès inverse de prétention, d'orgueil, mais on est tous mieux que ce qu'on imagine. La plupart d'entre nous, on manque de confiance en nous. On a des capacités et on est capable de faire beaucoup mieux que ce que l'on fait aujourd'hui. Mais si on n'a pas ce moteur, si on n'a pas ce rêve qui nous anime à l'intérieur, on n'ira nulle part, quoi. Eh bien, je retiens aussi de cette leçon de Gustave Eiffel et de la construction de sa tour Eiffel. C'était sa force du rêve, quoi. Contre tous, même contre le plus haut sommet, des gens qui étaient au plus haut sommet de l'État, hein. D'accord ? Des ministres qui disaient non, on n'en veut pas, quoi. Même contre des ministres, il s'est battu. Il y a eu tous les artistes de l'époque, je me rappelle, il y avait Alexandre Dumas, père, Guy de Montpassant, tout ça ont signé une pétition en disant on n'en veut pas la tour Eiffel, c'est trop moche, quoi. Même des gens d'influence, des maîtres à penser, ont fait ce qu'il fallait pour qu'elle ne voit pas le jour. Mais il avait ce rêve fort, quoi. Et puis il y croyait. Parce que vous ayez un rêve fort, vous disiez je vais faire tuteur, ça ne suffit pas. Ou star diamant, ou star, peu importe vos ambitions, mais il faut que vous y croyez, quoi. Parce que la différence, c'est ce qui fera ça. Parce que si vous y croyez fort, bah pendant les périodes où on dira c'est pas possible et ça fait peur, vous tracerez votre route quand même. Ça va ? Bah pour moi, ça, c'est les trois premières leçons que je tiendrai à la fois de cette histoire de Tour Eiffel, mais aussi à la fois notre histoire, parce que c'est la même histoire. C'est la même histoire, c'est la construction de quelque chose d'énorme. C'est une aventure humaine et économique avec un projet énorme, de la même manière. Et on est confronté aux mêmes choses. Vous savez que la vie n'est qu'un éternel recommencement. On vit les mêmes choses, d'accord ? Nous, qu'est-ce qu'on a besoin de faire ? Travailler de taille de nom. On a besoin de savoir inviter, on l'a vu tout à l'heure. Mais après, qu'est-ce qu'on a besoin de faire ? De respecter la méthode. Cette méthode, c'est un facilitateur, c'est un raccourci. On a ce qu'on appelle le guide du savoir-faire formalisé. Bah, pour moi, c'est un outil extraordinaire. Moi, je ne sais pas comment vous fonctionnez à titre personnel, mais nous, quand on démarre quelqu'un avec Anne, on offre ce guide. 1 euro. C'est un cadeau d'un euro. Ça, là, c'est, vous savez, tu démarres ton business pour l'euro symbolique, quoi. Clac. Mais ça peut changer sa vie. Elle vous l'a dit tout à l'heure, Anne. Jean-Jacques Haussan dit « Tous les raccourcis rallongent le chemin ». La plupart des gens qui échouent, enfin on n'échoue pas dans ce métier, mais dans tous les cas, la plupart des gens qui arrêtent dans ce métier n'ont pas respecté les différentes étapes. Ou ont chevauché les étapes. Exemple, ils invitent et ils expliquent. Ils présentent et ils démarrent les gens. Non, il y a une séquence à respecter. Et si on respecte cette séquence, ça marche. Si on a compris que le plus gros du travail était dans la préparation, ça marche. Un séminaire comme aujourd'hui ne fonctionne parce qu'il a été bien préparé. Parce qu'il y a des gens qui, depuis plusieurs jours, commencent à réfléchir à l'accueil, à la sono, aux dégustations, aux bouquins, à comment on va présenter le speaker, comment on va gérer la salle, la clim, le truc, la musique, tout. Il y a plein de choses qui font un séminaire. Quand on découvre comme vous, pour les nouveaux, on se dit « ouais, c'est super, c'est rodé ». Mais derrière, il y a une vraie machine, il y a une vraie préparation, vous comprenez ? Eh bien, on démarre, on met beaucoup d'espoir dans ce projet-là. Et nous, qui sommes sponsors, on a besoin de comprendre que les gens qui nous accompagnent, qui nous rejoignent, mettent de l'espoir en nous. Et que notre responsabilité, c'est de faire tout ce qu'il faut pour que ça marche pour eux. Ça marchera pour eux si on a compris ce qu'on venait de voir et qu'on met les gens dans la méthode. Vous savez, je dis souvent, alors ne le prenez pas mal, mais je dis souvent aux gens, on n'est pas là pour dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, on est là pour dire aux gens ce qu'ils ont besoin de comprendre. Ce n'est pas pareil. Oui, vous comprenez ? On est un guide. Il y a des gens qui ont déjà fait de la varap ou la montagne, des choses comme ça. Bon, eh ben quand vous êtes en cordée, par exemple, et que le guide vous dit, on va dormir là, parce que 300 mètres plus loin, on va se prendre la tempête dans la tête, eh ben même si nous, on est en pleine forme et qu'on a envie d'y aller, parce que là où il y a un point de vue plus intéressant, il va dire, non, c'est là qu'on fait l'igloo. Il ne nous demande pas notre avis. S'il nous dit, on passe ici, parce que ici, il y a une crevasse où si on passe là, on peut déclencher une avalanche et faire du dégât en dessous, et que nous, on a envie de passer là parce que ben là, on a une super vue, il ne va pas nous laisser le choix. Il n'est pas là pour nous dire ce qu'on a envie d'entendre, mais pour ce qu'on a besoin de comprendre. Vous comprenez l'idée ? C'est ça le rôle d'un guide. Un guide fixe le cap. Et il y a comment je dirais ? Il y a une grosse différence, souvent dans le mental des gens, comment je dirais ? Avoir l'attitude... Ce n'est qu'être gentil. Avoir l'attitude, c'est être bienveillant dans la vérité. Si je vous l'accorde, c'est très difficile. Mais quand on aime vraiment les gens, quand on respecte vraiment les gens, on leur dit la vérité. Moi, je me souviens d'un discours de David Douillet qui disait « Vous vous devez la vérité, mais vous devez la vérité aux gens de vos équipes. » C'est un discours qu'il avait fait à Marrakech. Il a raison. Parce que si on dit à quelqu'un, c'est super, c'est super, c'est super, et que quelque part il va dans le mur, on lui ment et on le manipule quelque part. Comme ça serait avec nos enfants. Un de nos enfants fait une bêtise une première fois, la deuxième fois, on lui dit, attends, je comprends pas, qu'est-ce qui t'arrive? T'as un souci à l'école? Qu'est-ce qui se passe? T'as pas de bonnes notes? T'as un problème? T'es malade? Qu'est-ce... Mais on va rectifier le truc, quoi. Vous comprenez l'idée? Non, on va pas lui mettre une tartine, non. C'est pas bien. Non, vous comprenez ce que je veux dire? Eh bien, avec un manager d'opportunité qui a mis l'espoir dans ce projet et qui a mis de sa confiance en nous, on lui doit cette vérité. Vous voyez? Eh bien, c'est toutes ces choses-là qu'on a besoin de transmettre dès le départ, avec bienveillance, mais en fixant le cap, quoi. Voilà, voilà moi ce que je ferai à ta place. Voilà ce que moi j'ai vécu. Tu sais, je l'ai testé, ce que tu as testé. J'ai perdu 6 mois. T'as envie de les perdre, ces 6 mois? Non? Écoute, voilà ce qu'on va faire ensemble. Vous comprenez l'idée du... Je lui ai fixé le cap, mais je lui ai pas dit, t'es une grosse vilaine, t'as pas fait bien, ou t'as pas bien fait. Non, vous comprenez? Mais c'est comme ça qu'il va falloir quand même l'amener. Il va falloir quand même lui dire. Il y a 3 ans, je crois, de ça, j'avais l'occasion de présenter Jean-Laurent Rodriguez. Jean-Laurent Rodriguez est un thésard qui a justement travaillé pendant 2 ans au sein de notre profession pour la comprendre. Et il est à l'origine de la licence et des accords qui ont été signés avec l'Éducation nationale. Et j'ai eu le privilège de le présenter. C'était à Cannes. Et avant de le présenter, donc je discute avec lui pour qu'il m'explique un peu son parcours, etc. Le CV que moi, je n'avais pas. Enfin bon, bref, les études qu'il avait faites que moi, je n'avais pas faites. Bref. Et en redescendant, je présente l'intervenant suivant. Et après, on se retrouve dans les loges et on discute. Et il me dit, vous savez, vous avez un management qui est extraordinaire. Un petit peu comme je vous l'expliquais. Dans la bienveillance, dans l'empathie, mais pas trop, etc. Dans l'accompagnement. Mais par contre, il dit, il manque un truc. Le débriefing, la vérité. Il faut dire la vérité. Et quand on dit à quelqu'un, quand tu démarres, tu as besoin d'avoir des produits, c'est lui dire la vérité. Quand on dit à quelqu'un, quand tu démarres, il va être important que tu comprennes qu'il va falloir que tu te formes 6 heures par mois pendant au moins 1 an minimum pour comprendre le métier, on lui dit la vérité. Quand on lui dit, tu sais, quand tu vas démarrer, on va travailler ta liste de noms, je vais t'accompagner, on va travailler tes invitations, je vais t'accompagner, on lui dit la vérité. Quand on lui dit, si tu suis le guide du savoir formalisé en démarrant et que pendant les 3 premiers mois, tu appliques les conseils que je vais te donner, on lui dit la vérité. Mais surtout, on le met vers beaucoup plus de certitude quant à ses résultats. Vous comprenez? Moi, je dis à quelqu'un, des fois, des gens me disent, mais qu'est-ce qui peut me garantir que ça marche? Tu mets 200 noms, tu divises ces 200 noms en 4, tu invites 4 fois 50 personnes, je te promets que tu fais Star Diamond en un an. En un mois, il ne faut peut-être pas exagérer. Mais ça, c'est des certitudes. Les gens qui veulent des certitudes, on peut leur en donner des certitudes. Ben oui. Vous prenez Caroline et Jean-Philippe, qui sont les témoins du dernier CD. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont 2 ans et demi d'activité. Depuis 2 ans et demi, ils démarrent 2 personnes par mois, tous les mois. 2 ans et demi après avoir démarré, ils démarrent 2 personnes. Ils ont démarré, je crois, entre 50 et 60 largeurs. Voilà comment on fait tuteur en 2 ans. Vous voulez faire tuteur en 2 ans, vous démarrez 2 personnes par mois, tous les mois. On a des certitudes, on peut aussi avoir des certitudes dans ce métier. Ah oui, mais moi je ne peux pas. Mais pourquoi on ne pourrait pas? Les gens qui font ça n'ont rien de plus que vous et moi. Hein. Rappelez-vous, ce n'est pas parce qu'on est là, qu'on a un don particulier, qu'on est... Moi je suis plus moins beau que vous. Hein. Vous avez tous des beaux nez, moi j'ai un gros nez. Vous êtes tous plus grands que moi, moi je suis tout petit, je fais 1m73. Vous croyez que je suis grand parce que je suis debout? Mais les gens ils sont assis, ils sont presque aussi grands que moi. T'as l'autre là, il y en a assis. Vous êtes tous beaux et jeunes, moi j'ai bientôt 60 ans. Ouais, vous n'avez pas d'enfants, moi je suis grand-père. Vous avez été à l'école, j'ai pas été à l'école. Si vous êtes issu de famille aisée, moi mes parents n'avaient pas d'argent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est marqué où tu vas réussir, tu vas pas réussir. C'est nous qui décidons ça. C'est pas les événements qui font les choses, c'est la façon dont on réagit aux choses qui vont faire les événements. Vous comprenez? Ça, c'est hyper important à comprendre. Toutes ces notions-là, c'est des choses qu'on doit transmettre. Et je dis souvent aux gens, c'est plus facile de réussir vite que de réussir doucement. Vous savez, vous connaissez les passifs agressifs? Attention, c'est un profil psychologique, hein, très précis. Hein. C'est les gens qui vont vous dire qu'ils vous leur mettez la pression, mais qui ne passent pas à l'action, eux. C'est un profil psychologique, ça s'appelle les passifs agressifs. C'est une agression, quelque part, de ne pas apporter des résultats aux gens. Ah oui, c'est agresser les gens que de ne pas leur apporter des résultats. Quelqu'un qui nous rejoint nous a fait confiance. Donc on est là pour lui amener des résultats rapides. Quand quelqu'un nous rejoint, on signe un pacte moral. C'est quoi le pacte moral? C'est qu'il ait 2 actions produits, 2 actions métiers qui marchent. Il a signé pour ça. Il faut lui en donner pour son argent. Vous comprenez, je résume un peu, hein, c'est un peu réducteur ce que je vous dis. Mais vous voyez l'idée? Et on lui doit le meilleur. On lui doit le meilleur. Donc, on doit le préparer et lui dire, voilà, tu as un outil qui va te permettre de réaliser tout ça. T'es bon ? On s'est arrêté aux fondations de la Tour Eiffel, à l'idée générale de la Tour Eiffel. J'ai été ravi de partager cette première partie avec vous.